Aspasie, Cléopâtre, Théodora. Deuxième édition, par Henri Housset. Cléopâtre, à Alexandre Dumas, fils. Cléopâtre, 1. Après 40 ou 50 siècles d'existence, l'empire d'Égypte agonisait sous l'œil de jetator du peuple romain. La dynastie grecque, qui avait donné au pays une force nouvelle et un renaissant éclat, s'était épuisée dans les débauches, les crimes et les guerres civiles. Elle ne se maintenait plus que par la grâce de Rome, dont elle achetait à haut prix la fatale protection, et qui daignait tolérer pour quelque temps encore une Égypte indépendante. Déchargée de presque tout service militaire par l'introduction des mercenaires hellènes et gaulois, les Égyptiens avaient perdu l'habitude des armes. Ils avaient subi tant d'invasions et accepté tant de monarchies étrangères que la patrie ne se résumait plus pour eux que dans la religion des ancêtres. Peu importait à ces peuples, nés serviles et accoutumés à tous les despotismes, d'être gouvernés par un roi grec ou par un proconsul romain. Ils n'en donneraient pas un épi de moins, ni n'en recevraient un coup de bâton de plus. Sa gloire éclipsée et sa puissance déchue, il restait à l'Égypte sa miraculeuse richesse. L'agriculture, l'industrie et le commerce déversaient dans Alexandrie un triple flot d'or. L'Égypte avait naguère approvisionné de blé la Grèce et l'Asie mineure. Elle demeurait le grenier inépuisable du bassin méditerranéen. Mais la fertile vallée du Nil, si fertile, dit Hérodote, qu'on n'avait pas besoin d'y tracer de sillons avec la charrue, ne donnait pas seulement du blé. L'orge, le maïs, le lin, le coton, l'indigo, le papyrus, le henné dont les femmes se teignaient les ongles, le trèfle qui suffisait à la nourriture d'innombrables troupeaux de bœufs et de moutons, les oignons et les raves dont les ouvriers employés à construire la grande pyramide de Khéops mangèrent pour 8 millions de drachmes, les raisins, les dattes, les figues et ces délicieux fruits du loto terrestre qui, selon Homère, faisaient oublier la patrie, étaient d'autres sources de richesses. L'industrie indigène produisait le papier, les meubles de bois, d'ivoire et de métal, les armes, les nattes, les tapis, les tissus de fil, de laine et de soie, les étoffes brodées et peintes, les faïences vernissées, les verreries, les coupes de bronze et d'albâtre, les émaux, les bijoux d'or, les parures de gemmes. Le commerce, enfin, qui avait des comptoirs au-delà du cap des aromates, qui lançait ses caravanes à travers l'Arabie et le désert libyque, et dont les innombrables navires sillonnaient les mers, depuis les colonnes d'Hercule jusqu'aux bouches de l'Indus, avait fait d'Alexandrie l'entrepôt des trois continents. Sous Ptolémée XI, père de Cléopâtre, les impôts, la dîme et les droits d'entrée et de sortie donnaient chaque année 12 500 talents, 68 millions de francs, au trésor royal. La capitale des Ptolémées, Alexandrie, faisait s'écrier à Achille Tatius « Nous sommes vaincus, mes yeux !» Et vraisemblablement, Achille Tatius ne vit cette cité qu'après la ruine de plusieurs de ses édifices. Mais ce qui avait de tout temps frappé d'abord l'étranger, c'était moins le nombre et la magnificence des monuments que la disposition symétrique et la superbe ordonnance de la ville. Deux grandes avenues, bordées de colonnades de marbre et se croisant à angle droit, traversaient Alexandrie. L'avenue longitudinale, longue de plus de 30 stades, 4 800 mètres, et large de 35 mètres, s'orientait du couchant au levant. Elle partait de la porte de la nécropole pour aboutir à la porte canobique. L'avenue transversale s'étendait sur une longueur de 17 stades, de l'enceinte du sud au grand port. Toutes les autres avenues et rues, également pavées de gros blocs de pierre et garnies de trottoirs, et également perpendiculaires les unes aux autres, venaient se raccorder avec les deux voies principales. Cette distribution régulière, cet aspect grandiose, ces infinies perspectives, donnait à Alexandrie un caractère unique au monde. On sentait qu'à l'inverse des autres cités, qui s'étaient formées peu à peu par agglomérations successives, celle-ci avait été créée d'un seul coup, d'après un plan arrêté. En effet, cette ville avait pour ainsi dire surgi du sable par la volonté d'Alexandre. C'était Alexandre qui avait déterminé l'emplacement de la ville. C'était Alexandre qui avait donné à l'enceinte la forme de la chlamyde macédonienne. C'était Alexandre qui, avec son architecte, Dinarque, avait tracé ce réseau régulier d'avenues et de rues, qui avait indiqué les digues à élever pour établir le nouveau port, qui avait désigné la place des principaux édifices. Les Ptolémées avaient ensuite embelli la ville. Ils avaient construit d'innombrables monuments et créé de merveilleux jardins. Des faubourgs populeux s'étaient fondés à l'est et à l'ouest. Mais dans son ensemble, Alexandrie était demeurée telle que l'avait conçue Alexandre. C'était du Panéum, colline artificielle de 35 mètres d'altitude, située au milieu de la ville, qu'on avait le panorama d'Alexandrie. Au sud, des milliers de maisons et de palais particuliers s'étendaient jusqu'à l'enceinte qui, par l'effet de la perspective, semblait baignée dans la nappe d'étain du lac Maréotis. Les humbles maisonnettes, crépies à la chaux, percées irrégulièrement de petites fenêtres, garnies de grilles de bois, et dont le toit en terrasse, surmonté de ventilateurs, servait de dortoir pendant les chaudes nuits de l'été, alternaient avec les vastes demeures qui s'élevaient au milieu des cours et des jardins, cachant à la vue des passants, par de hautes murailles crénelées comme des remparts, leurs blanches façades à portiques monumentaux, à rangées de colonnettes peintes et à corniches décorées de bandes multicolores. Le grand Sarapéum dominait tout le quartier. On accédait à ce colossal édifice par un escalier en spirale de 100 degrés. Des colonnes de syénite d'ordre corinthien, hautes de 32 mètres, en supportaient la coupole. Si l'on tournait les yeux vers la mer, le regard embrassait les quartiers du nord, l'ancien port et le port neuf, séparés l'un de l'autre par une gigantesque jetée de 7 stades qui reliait à la cité l'île de Pharos. À l'extrémité orientale de cette île se dressait le phare, immense tour octogone à 2 étages, haute de 111 mètres, tout entière construite en marbre blanc. Autour du grand port, depuis le cap Lochias jusqu'à l'Heptastade, régnait une superbe ligne de quais le long desquels s'élevaient les palais et les temples. Les édifices, de pur style grec, succédaient aux monuments égyptiens et à d'autres constructions magnifiques où les deux architectures avaient combiné leurs éléments, relevant la pauvre modénature de l'art saïte par les reliefs des ordres helléniques, faisant alterner la colonne corinthienne avec la colonne campaniforme et mariant la feuille d'acanthe à la feuille du papyrus. Dans la perspective des doubles portiques en colonnade se creusaient les absides des exèdres de marbre. À l'extrémité des longues avenues de sphinx, les gigantesques pylônes dressaient leurs massifs pyramidaux où défilaient sur les blanches parois les processions de figures peintes et dont le disque emblématique, aux grandes ailes déployées, décorait l'entablement. Ici, le temple grec profilait sur le ciel son fronton sculpté dans le paros. Là, le temple égyptien, vaste, trapu, mystérieux, avançait son pronaos de granit dont les piliers quadrangulaires portaient aux quatre faces de leur chapiteau cubique la tête du dieu Hathor. Sur les terrasses superposées que couvraient les parterres de roses et qu'ombrageaient les sycomores, les mimosas et les palmiers, apparaissaient les palais entourés de portiques à colonnes lotiformes, les enfilades de pylônes, les pavillons en forme de tours coniques, les kiosques ajourés, les audicules circulaires, les tribunes soutenues par des cariatides. Au milieu des places, au croisement des rues, devant les portes des édifices, s'élevaient les Hermès, les colosses osyriens, les statues de dieux hellènes, les autels, les hérums, dominée d'espace en espace par les hauts obélisques et les grands mâts fixés en terre dont les banderoles multicolores flottaient au souffle de la brise. Parmi ces innombrables monuments, on distinguait d'abord, à la pointe du cap, le temple d'Isis Lokias, une grande villa royale. Puis, devant le port fermé des rois, les chantiers et les bâtiments de l'arsenal. Là commençait le Bruchium. Entouré d'une enceinte de hautes murailles et de jardins suspendus, le Bruchium était une ville dans la ville. C'était la cité ptolémaïque. Chacun des Lagides y avait construit un palais, édifié un temple, placé des statues, fait sourdre des fontaines jaillissantes, planté des bosquets d'acacias et de sycomores, creusé des bassins où s'épanouissaient les nénuphars et les lotos bleus. Strabon applique au monument du Bruchium le vers de l'Odyssée. Ils sortent les uns des autres. Près des divers palais des rois et de leurs vastes dépendances, s'élevait le temple de Cronos, le temple d'Isis Plousia, le petit Sarapeum, le temple de Posidon, le gymnase avec ses portiques d'un stade, le théâtre, la galerie couverte, la bibliothèque contenant 700 000 volumes, enfin le Soma, immense mausolée où Alexandre reposait dans un cercueil d'or massif, remplacé plus tard par un cercueil de verre. Un autre édifice du Bruchium attirait encore la vue par ses énormes proportions et son épistyle que couronnait un dôme. C'était le célèbre musée d'Alexandrie, à la fois école, monastère et académie. Les grammairiens, les poètes, les philosophes, les astronomes y vivaient en commun aux frais des Ptolémées et on l'appelait méchamment la cage des muses. Cage magnifique, en tout cas. Où chantèrent Théocrite, Callimaque, Apollonius, et d'où s'éleva la grande voix de la philosophie alexandrine. Après le temple de Posidon, les quais s'infléchissaient en lignes brisées vers le sud-ouest. Là aussi, les monuments succédaient aux monuments. C'était la Bourse, le temple de Bindis, le temple d'Arsinoé et les immenses apostases où s'amoncelaient les marchandises du monde entier. Au-delà de l'Heptastade, on découvrait le vieux port, avec ses grands chantiers de construction, et plus à l'ouest, en dehors de l'enceinte, le faubourg de la nécropole, le quartier funèbre des embaumeurs.